fait, mais donc Aurélien, merci d'intervenir ce soir. Donc autour de l'œuvre de Bernard Lassus, tu vas nous en parler, je pense que c'est un travail de recherche que tu entreprends maintenant,
oui.
Tu as déjà entrepris il y a longtemps, c'est un sujet qui te tient à cœur. Et merci d'être là. Je crois que mieux ça peut laisser la parole.
Et ce qu'on s'était dit avec toi, Charles, pour la fois, c'est que il y a un effet d'emboîtement, dans le sens où c'est à la fois le travail de Lassus, mais c'est aussi comment on fait un travail de recherche sur le travail de Lassus. Parce que j'engage c'est déjà secrètement engagé, mais un travail de type doctoral à l'OHESS à partir de ça. Donc il y a, en fait, c'est pour ça que j'ai un jeu d'emboîtement dans le discours. C'est qu'à la fois une dimension méthodologique et en même temps quelques éléments sur Lassus, mais je ne fais pas de Lassus à son œuvre. Je fais plutôt comment on fait pour travailler sur d'engager une recherche doctorale sur Lassus. Et en fait, tout l'enjeu est là, c'est qu'en fait, moi, mon intention n'est pas de faire une monographie, alors qu'on pourrait le faire facilement. Donc c'est une dimension serrée sur l'œuvre, le personnage, etc. Mais d'être plus sur un modèle, je ne sais pas très bien si c'est canonique, mais un modèle de biographie intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est quand même extrêmement intéressant avec Lassus, c'est qu'il parcourt de très nombreux espaces sociaux, l'espace de création, l'espace de producteur, l'espace politique, en France et à l'international. Et en fait, l'hypothèse, je dis bien que c'est une hypothèse, c'est dans ce jargon des hypothèses, c'est encore des hypothèses dans des emboîtements, mais mon hypothèse à moi, enfin l'hypothèse que j'aimerais soutenir, je ne sais pas si elle est complètement valide, c'est que la question paysage, en tant que discipline et corps de doctrine, est quelque chose qui appartient à la culture européenne depuis au moins la Renaissance, mais qui dans les discours sur l'architecture moderne, en tout cas entre 1914 et 1975, expliquerai sur la date de 75 après, disparaît des discours. Et que, alors, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît des discours, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle disparaît dans les faits, puisque certainement le territoire européen ne se sera jamais autant modifié que dans cette période-là, quoi, au XXe siècle. Mais pour autant, la discipline en tant que telle semble s'être dissoute dans quelque chose. Et c'est dans ce quelque chose que je vais essayer de tracer un peu avec Lassus. Pourquoi 75? Parce que c'est la date de la création de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Et ce paradoxe, ce constat qui reste à argumenter sérieusement, mais qui à mon avis fait quand même consensus, ce constat pour moi est un paradoxe. Puisque quand même, notamment en France, la grande culture, la culture paysagère est quand même incroyablement forte et instituée depuis François Ier. Et donc, que ce soit Versailles, que ce soit le 18e, à Romainville, que ce soit évidemment Alphand, Haussmann, etc. Donc, voilà. Donc l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est que Lassus, de par son activité plurielle, va parcourir des territoires qui sont en effet ceux qui sera bien identifié à partir des années 75-80 comme étant nommé comme la discipline du paysage. C'est vrai que 80, il y a un moment où il y a une bascule quand même, c'est le moment des grands concours, et notamment du concours de la Villette. Et pour Lassus aussi, c'est un basculement. Donc ça, c'est un petit peu le cadre, c'est un peu le cadre général de la méthode de travail. Alors l'image qui est là, c'est un projet que Lassus a réalisé en deux temps, parce que c'était un jardin qu'il avait installé dans une entreprise de bâtiment, Colas, pour ne pas la nommer, à Boulogne-Billancourt, et qu'on a déménagé ensemble il y a deux ans, non, l'année dernière, au festival des jardins de Chaumont. Chaumont étant aussi une de ces institutions qui, à la fin des années 80, de par le festival international des jardins, redonne cette visibilité quoi, à la discipline, mais pas vraiment à la théorie, mais enfin vraiment à la discipline. Voilà, donc il y a deux échelles, quoi, finalement, deux échelles de lecture. Et moi, je vais parler de, donc, de cinq tableaux, finalement, j'appelle ça cinq tableaux, à partir desquels, donc, en même temps qu'il qualifie la pratique de la SUS, mais surtout qu'il qualifie les milieux institutionnels qu'il parcourt et qui concourent à la reconstruction de la discipline paysagère. On est dans les années 50, et il y a un moment entre 50 et 70, je dirais, qui est assez fort, discret en même temps fort, qui est une nouvelle profession qui apparaît, qui est celle des coloristes conseils. Et les coloristes conseils s'institutionnalisent de façon assez structurée. La SUS est d'ailleurs le président de l'Association française des coloristes conseils. Et c'est assez fédéral. Enfin, il y a une forme de. Ce n'est pas simplement un, deux ou trois acteurs, mais en fait, c'est au moins une quinzaine de personnes, quinzaine de praticiens qui viennent de milieux différents. Certains sont des ingénieurs, certains sont des artistes, mais en tout cas, aucun d'entre eux ne vient du milieu de l'architecture. Pour citer des noms, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais effectivement, il y a Bernard Lassus, mais il y a Jacques Filassier, enseignant au Gobelin, il y a Georges Patrix, enseignant des arts appliqués, plus tard arrive Jean-Philippe Lenclos, les clercs ensuite, et en fait, il y a 5 ans, j'avais beaucoup travaillé sur les coloristes conseils au Centre Pompidou, et en fait, ça existe en France, mais ça existe aussi en Israël, ça existe un peu en Angleterre, ça existe aux États-Unis, et donc l'idée, et c'est là où moi ça m'intéresse bien par rapport à une école d'art appliqué comme Camilo, c'est qu'en fait, on est sur la question de l'identité de l'espace industriel à partir de facteurs qui sont d'espace, mais qui sont la couleur. Et ça, c'est... Donc c'est d'abord un foyer d'acteurs qui ne viennent pas du milieu de l'architecture, et qui l'ont d'ailleurs délibérément quitté. Et c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que pour être au paysage, d'une certaine manière, il faut quitter le champ de l'architecture. Alors, dans quel milieu ça se... Alors, et en fait, quand on est juste 50-55, on voit que les coloristes sont ensemble dans un milieu professionnel commun avec les esthéticiens industriels qui deviendront les designers. Donc, dans la charte de l'esthétique industrielle, par exemple, que constitue Jacques Viennot, se voit déjà apparaître cette idée de, un, l'esthétique industrielle s'applique aux produits industriels, et là on va être sur la filière design industriel, dont quelqu'un comme Roger Talon sera la figure tutélaire, quand même, on peut le dire, ou alors on sera sur l'aménagement de l'espace de travail, et là on sera chez les coloristes. Et Lassus, lui, n'est pas du tout du côté de l'objet, donc ça c'est un paysagiste, mais il est du côté, et ben de quoi ? Des facteurs d'ambiance. Et 62, création de son premier bureau d'études qui s'appelle Centre des recherches d'ambiance. Donc le terme ambiance, moi à mon avis, il vient de plein d'endroits, mais moi en tout cas, je le rencontre pour la première fois à la fin des années 50, dans le giron de l'esthétique industrielle, sur la question de l'aménagement des lieux de travail. Parce que, et ça c'est la première question que je pourrais poser, c'est dans quel milieu d'acteurs se façonne cette discipline, en fait, cette profession. Et bien c'est dans le milieu d'abord de l'usine. Alors j'ai pas d'illustration sur les usines en couleur de la SUS, mais il faut savoir que c'est sur la question industrielle. Et de façon assez... c'est donc sur l'espace de l'usine, et l'aménagement du lieu de travail, d'une part. Et d'autre part, c'est évidemment sur le logement, on va dire social, pas encore les villes nouvelles, mais les grands ensembles. Et là-dessus, là par contre, on est en 60, par exemple, Lassus, mais comme d'autres, comme Lenclos plus tard, travaillons en masse sur des opérations de logement. Ici, on est à Quetigny-lès-Dijon, donc c'est l'équivalent d'une ville nouvelle, même si c'est anachronique, le terme ville nouvelle est anachronique par rapport à la période. Une ville nouvelle à Quetigny-lès-Dijon, où finalement le coloriste, et en l'occurrence la Suce, devient en quelque sorte l'urbaniste en chef, sur justement la question de la coordination des architectes, de celui qui va aménager le jardin, de la question de l'éclairage et de la question de l'identité finalement visuelle, peu onéreuse, hein, puisque peu onéreuse de que permet la couleur. Alors, la couleur, d'un côté, il y a la peinture, mais il y a aussi une autre matérialité qui est très forte, et dans le processus industriel de fabrication duquel le coloriste travaille, qui est évidemment la préfabrication type Camus, avec, en fond de moule, les pâtes de verre. Et là, on est vraiment dans un processus de design au sens large, mais en fait de conception-fabrication. C'est qu'à un moment, le coloriste rentre chez les producteurs de pâtes de verre, fabrique des nuanciers, met en place des gammes de couleurs, qu'ensuite immédiatement, enfin, un temps relativement court quand même, il utilise pour la préfabrication, pour la préfabrication notamment des panneaux de façade. Et donc on arrive, la figure que l'on connaît le mieux, c'est Ilaio. Et Fabio Rietti, qui est un artiste, œuvre en tant que coloriste chez Ilaio. Et de façon extrêmement significative, Ilaio, c'est aussi l'architecte des ouvrières de Lorraine. Donc Ilaio construit simultanément des usines et les logements sociaux, Forbach, etc., qui sont des logements en couleur. Comme les courtilières étaient des logements en couleur, et comme plus tard les grandes tours de Nanterre-Picasso sont exactement en pâte de verre. Donc je vous montre ici quelques images, et où on voit bien poindre quelque chose qui sera quand même très important d'un point de vue théorique chez Lassus, et qui sera mon deuxième tableau, c'est comment... Alors là, je fais encore des grands raccourcis, mais c'est juste pour discuter, c'est que finalement, formellement, il y a deux grandes divinités qui s'opposent, je le dirais comme ça, enfin je le raconte comme ça à mes enfants, il y a la forme et il y a la couleur. Et le grand débat, depuis toujours en fait, quand on y regarde bien en histoire de l'art, c'est que qui est assujetti à qui. Moi quand j'avais fait l'exposition de Stiel, les avant-gardes hollandaises dans les années 20, l'architecte hollandais qui s'appelle Oud, qui travaille avec Van Desbourg, il se fâche mortellement avec Van Desbourg, l'initiateur du mouvement, parce que la peinture, la polychromie que Van Desbourg, le peintre, crée, déstructure l'ordonnancement de l'architecture. Et c'est déjà ce qu'on voit là, avec des jeux d'échelle, avec des jeux d'individualisation de cellules, etc. C'est ce qu'on voit là... un peu. Alors là, les médiapos sont dans le mauvais ordre, donc je vais passer sur la suivante. Mais c'est surtout ce qu'on voit ici. Et là, on n'est plus sur l'effort industriel. Alors là, on est sur les logements de la houillère de Lorraine, pas la houillère, la sidérurgie, toutes les grandes entreprises sidérurgiques, à Ucange, à Gondange, etc. Dans les années 50, Jean Dubuisson, l'architecte moderne, construit des logements. Années 70, on n'est plus dans l'usine, on n'est plus dans l'industrialisation, mais on est dans l'usure de l'usine et de l'industrialisation, à savoir, les usines sont déjà en très grand ralentissement, il y a une population qui, donc du coup, quitte les grands ensembles, et donc on est dans la première étape de rénovation de ces logements. La photo que vous voyez en haut, c'est les destructions. Donc on est en 72-73, des destructions de logements qui sont vacants. Et le problème du bailleur, c'est de dire on est obligé de détruire un tiers des logements, donc on déstructure complètement le plan masse. Et par ailleurs, on doit rénover les logements. Donc comment redonner une identité, une cohérence et une qualité de vie de façon économique? Eh bien, par le travail de la polychromie. Et là, on parle de 5000 logements quand même. Et d'une certaine manière... l'anecdote, voilà. Et donc, si vous voulez, l'anecdote, c'est que évidemment, Dubuisson ne supporte absolument pas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'architecture de Jean Dubuisson. vous voyez, c'est la Montparnasse. Hein, c'est les grandes barres de la gare Montparnasse. Donc, c'est le Miss Vendéro français, quoi. Et là, si vous voulez, il y a quand même un énorme problème pour Dubuisson, quoi. Hein?
Oui. Oui, c'est ça, oui. Et moi, je me souviens bien. Et donc, en même temps, il y a un propos social qui est très important. Donc, c'est une question d'échelle, c'est une question d'identité, et c'est une question, oui, c'est une question d'échelle et d'identité. Et donc.
Oui, je me souviens dans l'intervention que vous avez eue au centre public de ces images-là et qui m'avait. Ce qui me paraissait très important, c'est qu'il y a une déstructuration, une remise en question, en y apportant une amélioration par la couleur, mais il y a une déstructuration et une analyse critique de l'architecture.
Voilà.
Parce qu'il disait, ça permet aux gens, modestement, de savoir, ah oui,
moi j'habite au-dessus du clochon. Voilà.
Oui,
voilà.
Le logis avec les deux sapins
voilà.
Derrière.
Voilà.
Mais en réalité, ce qui est le plus important, c'est que la structure organisée, puisque la création des environs, la routine et autres, est complètement bousillée, voilà. Complètement éclatée,
voilà.
Avec une autre poésie qui apparaît. Voilà. Hein, mais,
et c'est à ce moment-là qu'apparaît, dans le vocabulaire de Lassus, la notion de paysage. Parce que quand il écrit, quand il fabrique, après avoir fabriqué ça, il le théorise en effet en disant un paysage critique. Et c'est exactement ces termes-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur lui, c'est que le coloriste conseil, finalement à premier abord, travaille sur la croissance industrielle, mais en fait pas du tout. Il travaille sur déjà l'usure de l'industrie. Parce que dans les usines qui sont construites dans les années 50, et notamment les très grands derniers puits de Lorraine, par exemple, en fait, les ingénieurs, les ingénieurs qui construisent le puits, savent que ce sont les derniers. Donc on est déjà dans une logique d'accompagner, quelque part, non pas la fin de l'industrie, parce que ça serait absurde, enfin cette expression est un peu schématique, mais en tout cas, l'usure complète du maillage de la production industrielle première, quoi. Donc voilà, donc je passe quelques autres diapositives, on va dire. Et évidemment, la question du jardin se pose ici. Et la question que Lassus va beaucoup, beaucoup travailler, qui est la question de la relation entre l'artificiel et le naturel. Mais ça, on en viendra. Et qui est fondamentalement, depuis la Renaissance, la question du paysage. Hein. Quand vous regardez les grands jardins de la Renaissance, Bormozzo ou autres, on est toujours sur cette interrogation qu'il y a entre qu'est-ce qui est de l'ordre du naturel, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'artificiel, qu'est-ce qui est de l'ordre de la métamorphose, en fait. Et c'est vrai que la question la question première du paysagiste, elle est double. C'est la question de la transformation et c'est la question de la temporalité. Et ça, on y reviendra un petit peu après. Donc ça, c'était mon... Ce serait, en tout cas, le premier tableau. Juste avant de passer au second tableau, j'apporte juste un élément d'indice que je crois nécessaire de travailler, c'est quelle est la réception, en fait, du travail des coloristes. Et cette réception, elle est évidemment polémique. En France, il y a ceux qui, comme Ayot, disent « Mais attendez, compte tenu des budgets, c'est un des éléments fondamentaux de construction de l'espace. » Les critiques portent en disant « Mais attendez, c'est du cache-misère. » Bon, ça, c'est la dualité, on va dire, assez connue, qu'on peut trouver un peu dans tous les bouquins. Ce que l'on connaît beaucoup moins, c'est l'extraordinaire attention que les pays soviétiques, socialistes, pardon, sous l'obédience soviétique, vont porter aux travaux des coloristes, les Polonais, les Russes, dans le cadre, en fait, du réalisme. Alors c'est assez difficile d'accès pour la recherche, mais vous avez la grande revue d'architecture et design polonaise qui s'appelle Project, qui publie très régulièrement les coloristes, et dans les années 70-80, les Russes, qui sont en plein dans la recherche d'une critique de la doctrine ždanovienne, hein, en fait, vont beaucoup se saisir du travail des coloristes, mais de tous, hein, d'André Lemonnier, rien à voir avec moi, Dezen, Patrix, Filiacier, etc., vont beaucoup s'en saisir, justement, pour essayer de faire craquer le réalisme socialiste. Ça, C'est pas facile à travailler, mais c'est quand même important. Alors la seconde question, c'est avec quels outils finalement, hein, avec quels outils plastiques, avec quels outils, et donc la question de la couleur. Et en fait, l'astuce de ce point de vue-là est très claire. Ces matériaux, c'est la couleur, la lumière et le mouvement. Son travail, c'est un travail de dégéométrisation. Donc en fait, la couleur, la lumière et le mouvement permettent de dégéométriser pour produire quoi ? Un espace sensible. Et donc en fait, toute la critique politique dans laquelle un lapsus se situe, c'est la question de faire cohabiter la rationalité et la subjectivité. Et de ce point de vue-là, l'outil formel de la couleur, alors c'est assez extraordinaire, j'ai pas trop d'images là pour illustrer parce que c'est un peu compliqué, mais Lassus va engager un travail théorique sur la couleur absolument fascinant, sur la question des nuanciers, sur la manière, sur la possibilité de constituer des nomenclatures, sur les possibilités même. Donc après tous les grands travaux du 19e, Goethe, Chevreuil, etc., sur la possibilité, toute la question étant la reproductibilité. Donc un des outils de base, c'est non pas l'usage d'un nuancier, parce que nous aujourd'hui les nuanciers existent, on va même chez Leroy Merlin, on a des nuanciers déjà assez extraordinaires, mais là on parle de concepteurs qui vont concevoir des nuanciers, et qui vont les concevoir. Alors dans le cas de Lassus pour les peintures spectrales, dans le cas de
Jean-Claude que j'ai connu,
L'enclos c'était pour
Les peintures Gautier.
Gautier, voilà.
Il va recenser toutes les dominantes colorées des régions et il va produire des composants de couleurs pour les peintures Gautier.
Voilà.
De telle façon que les gens puissent mettre leurs architectures en harmonie avec la région et les traditions.
Voilà. Et c'est tout le travail de relevé qu'il fait, les couleurs de la France, et après il s'enquille toutes les régions en constituant une... Voilà. Mais pour Lassus, c'est un peu différent. Parce qu'en fait,
Lassus... C'est le Laprade de la couleur.
Lassus ?
Oui. Non,
L'enclos ?
Parce que Laprade a fait...
Ah oui, 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 l'architecture rurale.
Oui,
les 25 volumes, ou je sais pas.
Oui, il montre comment chaque région a sa typologie due au relief, due aux matériaux de base. En revenant à l'équilibre du granit en Bretagne, et ainsi de suite, avec les caractéristiques. Je trouve qu'on est dans un territoire assez proche de ça, puisqu'on sur le problème de la couleur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une quête d'identification profonde, d'identité ?
Chez l'enclos, je ne sais pas, mais chez Lassus, il y a pas, le mot identité n'apparaît pas. C'est vraiment la question de la subjectivité qui est posée, en fait. C'est pas la question de l'identité. Chez l'enclos, plus. Chez l'enclos, plus. Mais en fait, parce que Bernard Lassus, il ne vient pas du milieu, il vient pas de ce milieu-là. Lassus, c'est un élève de Fernand Léger. Fernand Léger ayant, dans les années 50, un atelier à Clichy. Hein, et Léger, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, que ce soit des gens comme Léger ou Vasarely, Léger, dès les années 20, hein, dans les fonctions de la peinture, explique que la peinture doit sortir du cadre, alors c'est très incantatoire, c'est merveilleux. N'empêche qu'à un moment, que ce soit Léger ou Vasarely, ils ne peuvent pas sortir du système artistique, du système social et économique artistique. Ils restent fondamentalement attachés au système des galeries, au système des musées, au système académique, finalement, de la production artistique. Et ceux qui vont, en effet, mettre en œuvre cette belle idée très incantatoire des premiers modernes, enfin des peintres modernes, c'est ceux qui vont accepter de sortir du système des galeries. Et effectivement, les gens comme l'Enclos, les gens comme Lassus, etc. Lassus, lui, pourtant, qui en vient d'une certaine manière, puisque dans les années 50, c'est un artiste cinétiste. Donc il est exposé par toutes les grandes 50-60, il est exposé par toutes les grandes galeries qui exposent le cinétisme, la galerie Denise René. Il est dans la grande exposition d'Eindhoven, Kunstlicht Kunst, de Frank Popper. Et donc il est même exposé à Nouvelle Tendance à Zagreb au milieu des années 60. Mais même chez les cinétistes, il est déviant. Parce que malgré tout, quelqu'un comme Morlaix ou même Cruz-Diez sont quand même attachés à la question de la géométrie. Alors que lui, il n'est absolument pas sur la question de la géométrie. Alors ce qu'on voit, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à photographier. C'est qu'en fait, ce sont des espèces de portants, de pendus, sur lesquels sont des lames de métal peintes, de couleurs différentes en fonction des côtés. Ces lames sont mises sur un pivot. Et en fait, derrière, il y a un écran. Et la lumière, la couleur que l'on voit sur l'écran blanc, c'est la réflexion.
L'écran est blanc, en fait.
Oui, l'écran est blanc. La photo est grise, mais l'écran est blanc. C'est en fait la réflexion de la couleur depuis cette espèce de mobile. Et rapidement, en fait, chez Lassus, c'est la démarche artistique assumée et complètement revendiquée, même exposée. Elle est nommée par lui comme des chambres d'expérimentation sensorielle. Et donc, en fait, ces recherches-là sont des recherches fondamentales qu'il va ensuite chercher à mettre en œuvre ou à déployer sur des réalisations concrètes. Et ce que je veux dire par là, c'est que la dimension d'expérimentation, elle est intrinsèquement assumée, quoi. Et je ne sais pas si tu avais vu son exposition en 1974 aux Arts Déco, les paysages quotidiens, voilà.
Et je pense que j'en ai parlé parce que vous avez fait un seul que je suis déjà fait avec mes étudiants. C'est qu'ils nous offraient une feuille, un A4 avec
ouais.
Un cercle
rouge au centre. Ouais.
Et alors, ils lui demandaient de justifier, de faire. Donc, on devait dessiner, il y avait des crayons pour comment. Quel sens donner. Donc, c'est intéressant, c'est que la forme et la couleur s'offraient à des interprétations de la façon de chacun.
Et donc cette machine-là, par exemple, c'est des rouleaux de couleurs perforés avec des rouleaux internes d'autres couleurs. Ça a été exposé en 74 justement. Ces chambres d'expérimentation sensorielle, ces expérimentations, il les appelait des ambiances. Donc il y a ambiance 2, ambiance 2, 3, ambiance... Ambiance 10, la tulipe, toujours sur la réflexion de la lumière. Vous mettez un petit papier de canson dans le calice d'une tulipe et le papier devient coloré alors qu'il est blanc, pas justement tous ces jeux de réflexion. Donc, c'est le milieu artistique, en même temps, comment le quitter, quoi. Donc ça, c'est... Alors, milieu artistique qui, en plus, dans les années 80, va se déployer plutôt en Grande-Bretagne, plus du tout dans le champ du cinétisme, mais plutôt dans la proximité de l'art conceptuel, quoi. Et Lassus va être beaucoup exposé à Édimbourg, à Londres, chez Coracle Press, par exemple, dans la galerie Coracle, dans le giron du minimal art, du land art, dans une très grande proximité avec Ian Hamilton Finlay, par exemple. Mais bon, je ne développe pas ça aujourd'hui, mais si vous voulez, il y a un truc qui serait intéressant, c'est de voir que la réception et l'accueil de son travail ne se fait pas tellement en France, même s'il a des très gros boulots en France, mais son identification, sa reconnaissance culturelle et intellectuelle, elle se fait plutôt en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, puis après aux États-Unis. Alors, donc ça c'est... Voilà. Donc voilà, c'est ce type de travaux qu'il expose à la galerie Corac, à côté de Fulton, à côté de... Comment il s'appelle son nom m'échappe, là, le grand land artiste qui fait des cercles en Richard Long. Donc il expose à côté de ces gens-là. Et il expose ce genre de choses. Là, c'est une série qui s'appelle Les Pins, et donc il prend en photographie le même pain, mais sous trois angles différents, et on voit qu'en fait, de par la lumière, la même écorce n'a absolument rigoureusement rien à voir, puisqu'on a le sentiment que c'est trois arbres différents. Alors, troisième interrogation, dans quel espace intellectuel il agit, et là...
Blanchetège. Je voulais te dire, comment c'est dit que tu me prépares bien, parce que ça va le construire. Tu parles de jardin imaginaire, c'est les habitants paysagistes.
Bah c'est lui.
Voilà.
Nous y sommes.
Voilà. C'est un territoire. C'est pour ça, là, il faudrait écouter, on pourrait faire un exposé là-dessus. Moi, j'ai une admiration inconditionnelle sur le travail qu'il a fait.
Voilà. Et bien là, donc c'est dans quel cadre intellectuel? Moi, je dirais c'est celui de l'anthropologie sociale. Contrat de recherche du ministère de la Recherche pendant 4 ans pour investiguer, inventorier et repérer tous ces jardins populaires dans la France entière qui sont essentiellement des jardins ouvriers, mais pas seulement. Où à un moment, il y a cette création qu'on dirait, on appellerait ça dans le champ de l'histoire de l'art, l'art naïf, avec une confusion complète du milieu de l'art et notamment des Suzanne Paget au MMVP, enfin bon, moi je passe les détails, mais une confusion complète du milieu de l'art qui assimile ça, qui assimile les jardins imaginaires et les habitants paysagistes à de l'art brut, ce que ce n'est pas. Absolument pas, puisque c'est absolument pas, si on considère que l'art brut, c'est l'art quand même plutôt lié à des espaces de folie, là, on est plutôt sur les habitats populaires, quoi. Et les modalités, en fait, de quoi? D'appropriation du territoire par des habitants et par ces créations extrêmement singulières et curieuses. C'est une recherche qui dure 4 ans. Il inventorie plus de 1000 jardins. Il en fait le relevé de plus de 100 d'entre eux. Et il expose le résultat de ses recherches. Quand je dis anthropologie sociale, ce n'est pas complètement innocent, devant Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss, au Collège de France, adoube, en fait, le travail sur les habitants paysagistes en tant que nouveau champ de l'anthropologie, quoi. Donc c'est la question de la structure du paysage quotidien, du paysage quotidien. Je vous montre encore une autre image. Qu'est-ce qui intéresse la SUS? C'est des dispositifs formels et plastiques d'appropriation du jardin, d'appropriation à la fois de l'espace proche, mais aussi de l'espace lointain, souvent industriel, dans une logique, une dimension supplémentaire. On avait vu la dimension de la couleur, de la sensibilité, et là on est sans une dimension imaginaire. Vous avez ici la Tour Eiffel. Donc ça c'est la Tour Eiffel. Et qui d'autre dans le milieu intellectuel français se trouve extrêmement intéressé, voire même passionné par cette idée? Je cite, vous devinerez peut-être, une lettre donc de cette personne dont je vais vous parler dans un instant à Bernard Lassus, suite à la publication du livre des Jardins imaginaires. « De nuit d'insomnie et de rêve éveillé, tel est l'effet de l'envoi de ton dernier ouvrage et de l'envoi autographe poétique dont tu l'as encore embelli. Cette œuvre immense que tu as entreprise se trouve poussée comme jamais à l'aide de ce système texte-image intégré qui fraternise en découverte avec mon système chose-texte de la galerie culturelle. Quelle joie pour moi d'avoir trouvé dans la liste de référence le diaporama de la galerie culturelle 2979. Il marche très bien et s'intéresse. Je parle de Georges-Henri Rivière et du musée des arts et traditions populaires. » Donc, d'un point de vue conceptuel, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que vous avez d'un côté un corpus qui quand même s'approche plutôt de l'univers et de l'univers des arts décoratifs, et que en face, que ça ouvre en tout cas vers un corpus qui est plutôt celui des arts populaires. Et que à travers quelqu'un comme Lassus, à travers quelqu'un comme Georges-Henri Rivière, se rencontre finalement, en tout cas s'interroge rétrospectivement, cette relation entre art décoratif et art populaire.
Je veux faire une... son analyse, notamment pour ce qui est des agences, c'est qu'il démontre, je ne sais pas, je pourrais avoir rapporté le bouquin, le livre, il m'a signé en plus, il est sacré, montre des principes d'articulation de l'espace, de la couleur, des références, d'une façon extrêmement savante. Et il donne un exemple qui prend sur Versailles. Il montre à un moment un travail d'aménagement d'un jardin paysager qui a le même principe que celui de Versailles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contraste retardé? C'est un sujet qui est commun à deux éléments proches mais qui sont divers. Alors l'exemple type qu'il montre, c'est vous avez Versailles, vous avez le château d'un côté, vous avez au fond du Grand Canal
la forêt
qui a repris sa liberté, et intermédiaire, vous avez un if taillé, un buis taillé. Le buis taillé, il appartient au végétal, et sa forme taillée appartient à l'architecture. Il appelle ça un contraste. Et là, il démontre, il montre plein d'exemples dans ses habitants, où on voit un escalier qui est à côté d'un frêne taillé et d'un kiwi sauvage. Et il montre complètement que les principes sont dans ces gens modestes. A priori, c'est pas un art naïf, c'est parfois un art extrêmement cultivé et élaboré. C'est super. Voilà. Pour aller dans le Nord, hein, vous ne connaissez pas assez le Nord. Hein, maintenant, c'est fini, les corons, ils ont perdu leur identité forte. Hein, c'était des bandes de jardins qui étaient dues au fait que les gens habitaient, les mineurs habitaient dans les corps de bâtiments répétés. Et ils avaient des bandes de jardins, c'était un lieu de projection de leur liberté quand ils n'étaient pas au fond des.
Pour poursuivre ce que tu disais sur la question du contraste retardé, mais je n'avais pas trouvé la photo qui montre bien ça. On est dans un jardin, et là, vous avez Blanche-Neige. Et Blanche-Neige est au fond du jardin et ne regarde pas la maison. Elle regarde le terril. Et alors, Bernard me raconte qu'il met 2 ans à savoir poser la bonne question à l'habitant qui a fait cette Blanche-Neige. Et il dit, mais qu'est-ce que regarde Blanche-Neige? Et le mineur lui répond, bah, la forêt. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas de forêt. C'est un terril. Je ne sais pas si vous imaginez pas ce que c'est qu'un terril dans les années 70, quoi. Il n'y a pas d'arbre. Hein. C'est un terril. Et en fait, par le regard, parce que c'est Blanche-Neige, et parce qu'elle regarde ce territoire industriel, le terril devient la forêt. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr.
Il dit la même chose sur au bout du jardin, il y a un mur et derrière il y a une usine, et il dit, il regarde le château.
Le château.
L'usine devient, voilà, par l'imaginaire et la configuration du jardin en amont, un château.
Voilà. Donc après la quatrième hypothèse, est-ce que j'en suis, moi, n'est-ce pas ça? Elle n'a pas d'illustration. Parce que je suis pas encore. C'est la question de l'enseignement. Parce que Lassus est un grand enseignant. Nommé par Malraux en 67 professeur à l'école des Beaux-Arts, il va enseigner jusqu'en 2010. À l'école des Beaux-Arts, puis après la réforme de l'architecture, milieu 70, 72, 74, il va à UP6, qui est aujourd'hui la Villette. Non, alors c'est UP4. Enfin, il va à la Villette,
C'est la Villette, UP6.
Ah, voilà.
Oui, parce que l'association restait la saucisse.
Ah, voilà. Donc, il va enseigner à la Villette. En 88, il monte le premier DEA dans le champ de l'architecture, spécifiquement du projet d'architecture, et il le monte parallèlement la Villette, le HESS, avec notre ami, comment il s'appelle, notre ami qui a fait la conférence inaugurale pour le chaudron, Berck, avec Augustin Berck. Mais avec plein d'autres, avec des théoriciens importants du paysage. Puis, ensuite, il exporte son savoir à l'université de Pennsylvanie, où il est visiting professeur pendant 5 ans, et où l'université de Pennsylvanie a dans son giron un des hauts lieux de la recherche théorique en paysage, qui s'appelle le Dumbarton Oaks, avec la plus grande bibliothèque sur le paysage depuis toujours. C'est un peu l'équivalent du Getty, mais à peine, quoi, le Dumbarton Oaks. Et oui, c'est 91, le diplôme d'enseignement approfondi à UP6. Et puis Penn. Puis ensuite, Hanovre, Venise, en tant que visiting professeur. Donc en fait, d'une certaine manière, il institutionnalise via l'enseignement et sur un temps long à la question de la recherche en paysage. Il lui donne une existence, il lui donne une visibilité, un cadre institutionnel et une légitimité intellectuelle. Ça nous intéresse quand même, cette question de comment on formalise une discipline par différents moyens, mais aussi par l'institutionnalisation de la recherche. Et pour conclure, d'une certaine manière, le cinquième tableau, c'est la question du retour au jardin, qui est clairement clair et manifeste à partir des années 80. Lassus se qualifie volontiers comme le poulet d'or des grands concours de paysage, puisqu'en fait, tous les grands concours qu'il y a en France et en Europe, il les a faits, il a toujours été deuxième. Donc le premier, c'est le jardin pour la ville nouvelle de l'île d'Abo. Le propos étant, et alors là, on est vraiment après les habitants paysagistes, enfin, dans le sens, on est vraiment sur la continuité des habitants paysagistes, puisqu'il s'agit de fabriquer l'espace, non plus simplement par une formalisation plastique, mais pour lui donner une résonance dans l'imaginaire. L'île d'Abo, c'est une ville nouvelle, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, en gros, c'est la plaine, juste avant le Grenoble, donc il n'y a rien, et donc Lassus réinvente un passé imaginaire, le passé préhistorique de ce lieu, avec cet animal extrêmement bizarre qui est un moustique énorme. Et donc tout le projet du concours, qu'il ne réalisera finalement pas, constitue à reconstruire une histoire à ce lieu qui n'en a pas, en fait. Donc là, on était en 75, 76. Ah mince, mais ça marche pas, c'est pas ça. 81, le parc de la Villette, où il est ex aequo avec Bernard Tchoumi. L'histoire est un peu compliquée, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Giscard qui fait la Cité de la Science et de l'Industrie. Fin-Silbert gagne le concours, mais Giscard accepte que Fin-Silbert fasse le bâtiment, mais trouve que le projet du parc de Fin-Silbert ne lui plaît pas. En revanche, le numéro 2, qui est Macari, l'architecte Macari, avec qui Lassus a fait le projet, et notamment pour le jardin, Giscard dit, on donne à Fin-Silbert le bâtiment, et puis on donne à Macari Lassus le jardin. Patatras, arrivent les élections présidentielles, 81, Mitterrand passe. Évidemment, le jardin n'est pas encore en cours, donc Mitterrand ne déjuge pas le choix de l'architecte. Par contre, pour des raisons purement politiques, à mon avis, remet en débat, et politique avec la mairie de Paris, évidemment, remet en débat le concours de la ville, le concours du parc. Et à ce moment-là, la grande lutte dont certains se souviennent peut-être, la grande lutte entre l'ordre des architectes, les paysagistes, le concours international, extrêmement compliqué, trois phases, jury présidé quand même par Burle Marx. Le paysagiste Burle Marx, c'est le jardinier de Niemeyer, Oscar Niemeyer. Et là, c'est Tchoumi qui gagne. Et Lassus, lui, donc se retrouve sur le carreau, alors qu'il avait, et donc il est nommé ex aequo, quoi. Mais ex aequo deuxième, quoi. Donc je ne vais pas trop rentrer. Alors si, le propos, c'est de dire, Lassus là se ressaisit. En fait, et c'est là où il y a une question, c'est qu'en fait, d'un point de vue théorique, Lassus réactualise les codes du grand jardin classique, en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le jardin, c'est un regard de la relation que l'on a à la nature. c'est pas la nature, c'est un regard que l'on a sur la nature. Et donc pour la Villette, il dit, c'est très simple, mon parc, c'est un regard que l'on porte sur la science. Et donc du coup, il déploie toute une narration sur la question de la science, de l'astronomie, de l'astrologie, et la grotte, c'est la grotte avec un planétarium, avec des cavernes qui sont dédiées à un certain nombre de planètes. Donc c'est toute une allégorie poétique et pédagogique sur les avancées scientifiques. Là, je fais une toute petite parenthèse, mais en fait, la SUS n'a jamais quitté le monde industriel, ne l'a jamais quitté, c'est-à-dire que on a bien vu, il travaille pour l'industrie primaire, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire les charbons, le charbon et la métallurgie dans les années 50-70. Il travaille pour les grands sidérurgistes aussi et les fabricants de paquebots, puisque ça, j'ai pas d'image et c'est une histoire assez peu connue, mais il aménage intégralement pour les chantiers de Saint-Nazaire des paquebots. Et le troisième grand donneur d'ordre avec qui il va travailler, c'est les autoroutiers. Donc en fait, et ça, c'est une aire d'autoroute. Donc en fait, la SUS va réaliser plus d'une centaine d'aires d'autoroute et va travailler pour Vinci, notamment pour Vinci, mais ASF, etc. Et ça va lui donner une position politique extrêmement puissante, puisqu'il va siéger au Conseil général des ponts et chaussées, ce que théoriquement on ne peut pas faire quand on n'est pas polytechnicien. Et donc du coup, tous les grands tracés autoroutiers depuis les années 70, la SUS, quelque part, tente, avec d'immenses résistances, etc., mais tente d'y imposer à chaque fois une démarche paysagère. Et ça, c'est une des aires de repos qui se trouve dans l'ouest de la France, à Crasanne. Le très grand concours engagé par la municipalité, par le département, enfin par le Land de la Roure à Duisbourg. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce projet qui a une trentaine d'années. C'est Jourdain Perroda qui avait fait des bâtiments et c'est Latz qui a gagné le concours sur toute la rénovation de tout le bassin sidérurgique qui est à côté de Duisbourg. Et la SUS est second. Et puis le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est un projet réalisé, c'est le jardin des retours de Rochefort, c'est-à-dire qu'en fait c'est le jardin de la Corderie Royale, qui lui a été réalisé pour le coup, et qui a été inscrit par François Mitterrand précisément dans les grands projets présidentiels en région. Et son propos est assez simple. Donc en fait, il y a une stratification historique que la SUS va essayer de révéler et de signifier. Schématiquement, Rochefort est choisi par Colbert et Louis XIV en 1660 pour accueillir pour armer les bateaux qui partent faire la colonisation aux États-Unis. L'architecte Blondel construit la Corderie. La Corderie, c'est une usine, c'est un bâtiment qui fait 300 mètres de long, dans lequel on fabriquait les cordages. Et ce site va être un arsenal naval jusque dans les années 20. C'est d'ailleurs là qu'un des premiers sous-marins français a été construit, m'a-t-on dit. Et donc ça va être, avec une activité fluctuante, mais entre 1660 jusque 1920, ça va être un des gros arsenals français. Il y en a d'autres, il y a Toulon, il y a Cherbourg, etc. Mais celui-là en est un. Et ensuite, ça va être une friche industrielle, bombardé par les Allemands, et dans les années 70, grand programme de rénovation urbaine et territoriale, concours mi-État, mi-municipalité pour la rénovation de la Corderie, accompagné d'un concours pour le jardin de la Corderie. Et tout le propos de Bernard, ça va être de dire, on va construire la narration du jardin sur précisément ces stratifications historiques. Parce que qu'est-ce qu'on faisait à Rochefort ? Pourquoi ça s'appelle le jardin des retours ? Parce que les bateaux partaient soit en Guyane, soit en Nouvelle-France, enfin au Canada, armés de colons et de militaires. Au retour, initialement, bon, pour les questions techniques de navigation, le bateau doit être chargé, sinon il chavire. Donc initialement, on chargeait les bateaux de pierre, c'est pour ça que vous trouvez pas mal sur la côte ouest des cailloux qui viennent du Canada. Et le premier amiral ou le deuxième amiral qui a en charge, gouverneur de Rochefort, demande l'autorisation au roi de ne plus simplement charger les cailloux, mais de se charger de quoi ? De plantes exotiques. Donc, les tulipiers de Virginie, les palmiers et les fameux bégonias, par exemple, sont arrivés en France par Rochefort. Bégonia, ça vient du nom Bégon, qui est justement le gouverneur de Rochefort-sur-Mer. Et donc, tout le travail que Lassus va faire, c'est de dire, attendez, au départ, on est sur un port de mer, et quand les bateaux reviennent, le retour, c'est un nouveau commencement. Nouveau commencement quoi ? Eh bien, de l'acclimatation de ces dizaines, voire ces centaines d'espèces qui reviennent, qui viennent des Amériques pour... et qui aujourd'hui vont devenir... complètement quotidiennes. Le magnolia, le tulipier de Virginie, le bégonia, c'est ce qu'on offre à notre grand-mère pour la fête des mères. Enfin, c'est un truc totalement courant. Donc, si vous voulez, il est dans cette narration, dans ce jeu des écarts, totalement immatériel, parce qu'en même temps, c'est ça, il le figure, mais c'est parce qu'on y, enfin, on veut bien y croire, mais c'est de l'ordre d'un imaginaire, quoi. Alors avec quand même une structure formelle assez construite, dans une économie assez serrée, qui consiste à redonner une visibilité sur ce qu'on pourrait être la mer, pourrait croire être la mer, mais qui n'est pas vraiment la mer, puisque c'est la Charente. Mais néanmoins, le travail sur les grandes percées, donc je ne vois pas là, le travail sur les grandes percées vers la Charente permet d'organiser les vues sur la Charente, mais en fait sur le lointain. Donc c'est encore une fois cette relation entre le proche et le lointain, avec par ailleurs des folies. Alors il reprend exactement le système des jardins classiques, hein, donc une grande composition, qui justement ne positionne pas la Corderie royale comme un château, mais bien comme un bâtiment industriel. Et puis ensuite, l'installation de folie. Donc ici, par exemple, c'est une évocation des gréements et des mâts de gréement des bateaux. Bon, c'est complètement en ruine aujourd'hui, malheureusement, mais à l'intérieur duquel sont positionnés, alors là c'est en béton, mais en fait ça s'appelle des tontines, donc c'est une espèce de grand sac en osier dans lesquels on ramenait les plantes, avec leur chapeau évidemment, parce que voilà, etc. etc. L'évocation de la question maritime, donc il se saisit du grand jeu du labyrinthe, dont l'artopierre évoque la question des flots, dans lequel il installe des maquettes, en fait il n'a pas pu le faire parce qu'évidemment il n'a pas eu de sous pour le faire, dans lequel il installe tous les grands moments de l'histoire navale qui sont passés à Rochefort. Pour mémoire, par exemple, le radeau de la Méduse, les naufragés de la Méduse, donc c'est considéré comme déserteurs, hein, au large des côtes africaines, je pense. En fait, ils sont jugés à Rochefort, par exemple. Donc, le labyrinthe était censé évoquer toute cette question de l'histoire maritime. Quoi. Là, je passe. Et pour conclure, le deuxième jardin qu'on peut voir de Lassus aujourd'hui, c'est le jardin des hypothèses, puisque c'est pas moi qui ai donné ce titre, c'est lui, c'est le jardin qui se trouve à Chaumont-sur-Loire, reprend complètement les typologies de l'art classique. Ici, il s'agit d'un théâtre de verdure, hein, mais avec un travail formel qui n'a rigoureusement rien à voir, évidemment, avec l'écriture classique, mais néanmoins en reprenant cette type de typologie, avec évidemment tout ce jeu de brouillage entre ce qui est de l'ordre du naturel et ce qui est de l'ordre de l'artificiel, et avec tout ce jeu de gradation qui l'organise à partir de ces plans en émail, en émail peinte, quoi. Et là, la couleur revient. La couleur revient, et toutes les expérimentations formelles et plastiques que Lassus avait mis en place s'y trouvent, et notamment sur cet arbre qui est assez malicieux, parce qu'en fait, on ne voit pas très bien sur les photos parce que c'est pas évident à prendre en photo en fait, mais c'est la réflexion du bleu sur le jaune qui donne du vert, le vert de l'arbre. Voilà, pour cette petite promenade paysagère.
Je découvre un peu, parce que je connais mal le travail de l'œuvre de l'Assus. Et là, tu en montres tout le bagage. J'avais des petites questions, parce que, en fait, il est bien plasticien, au départ.
Oui. C'est ça. Les peintres, au départ.
Les peintres, les touches, c'est ce qu'il y a de très, très intéressant dans tout le monde, c'est cette intervention sur des échelles très, très différentes. Mm. Avec des outils, effectivement, très différents. Alors, moi, j'ai des questions sur le. D'abord, comment on travaille sur Bernard, pourquoi Bernard Lassus, comment, et quelles problématiques ça pose quand tu bosses avec quelqu'un qui est là, tu en échanges. Enfin, tu vois, c'est là que tu reconstitues une histoire avec le protagoniste principal, et que tu mets en perspective. C'est-à-dire, comment ça se passe, ça, ça, c'est la première chose. Et puis, comment ça fait sujet. Une histoire aussi de découverte, de mise en place d'un certain nombre de concepts. Je comprends mieux en t'écoutant aussi, ça c'est une remarque, et à un moment donné, quand tu parlais effectivement de jardins imaginaires, d'acteurs imaginaires, je comprends mieux certains propos, je me souviens de chez Métaphore, quand tu parles de la bambou. Mmh. Il s'intéresse beaucoup justement à ça, donc, les jardins bambou, comment ça fonctionne.
Chez Metov Paul ou Alexandre
le père, oui.
La Paul.
Et je trouve que je comprends mieux cette espèce de regard absolument fascinant. Et puis ça me rappelle aussi le conservateur des arts et traditions populaires, le rapport à Jean-Jacques Rivière, qui ça plaisait le courrier quand j'étais étudiant.
Oui, je très bien.
C'était toi qui le disais. Et tu disais, quand c'est son cours, il faut qu'on enregistre avec les portes-filles. Tu disais, bon, voilà, vous êtes entre Zébanel et Colloulou, donc vous pensez tous que. Le loup, c'est l'art aristocratique, les arts déco, c'est l'art bourgeois, et les arts et traditions populaires, c'est l'art ouvrier, et bien mon cul. Et commencer son cours sur la fête foraine. Oui. Elle a montré effectivement ce que tu disais tout à l'heure sur le lien entre les jeux réciproques, entre art populaire, art savant, ces jeux d'inspiration, et finalement, effectivement, les choses ne sont pas séparées comme elles l'ont été par la pensée académique. Et c'est extrêmement passionnant et intéressant. Et puis, alors, j'ai une petite question, parce que là, récemment, on a fait plein de rendez-vous avec le ministère de la Culture, tout ça à propos de la création d'un grade de master en architecture intérieure. Et on s'est tout de suite mangé, l'ordre des architectes, évidemment, qui a dit, vous faites ce que vous voulez, mais du moment qu'il n'y a pas le mot architecte, mais architecte intérieur. Donc, et c'est totalement paradoxal et c'est génial, parce que quand on fait référence à un métier, les gens nous disent, et les gens du ministère, ils nous disent, oui, mais comprenez la différence avec l'architecture. Alors, oui, effectivement, c'est l'architecture qu'on fait ici, mais avec des échelles différentes, tout ça. Et ils nous donnaient comme modèle, là, le cas des paysagistes.
Mais ils se sont fait baiser, excusez-moi.
Voilà.
Pourquoi
et qui s'appelait, alors, il s'appelait architecte.
Paysagiste.
Ils ont mis en place un master avec un référentiel et ils les ont élevés.
Concepteur.
Un master de concepteur paysagiste.
Concepteur paysagiste.
Avoir.
Ben oui, c'est-à-dire que je pense que je pense qu'il faut résister vraiment à l'ordre des architectes parce qu'il n'y a pas lieu d'interdire de discipline que l'architecte, de monopoliser le terme d'architecte quand on sait en plus comment ils le défendent.
Oui. Contraignante et en même temps ambiguë, et puis là on va mettre ça à
bien sûr. Bien sûr.
C'est un domaine de l'architecture et qui.
Mais c'est plus que ça, parce que c'est quand même, moi je trouve, enfin, alors là c'est personnel, hein, mais c'est un domaine que, parce que moi je suis architecte, je viens de là quand même, hein, mais c'est un domaine que les architectes ont abandonné. Ben oui, ils l'ont abandonné quand même. Alors peut-être, non mais pas tous, mais non mais ce que je veux dire c'est majoritairement depuis les années 70, en gros ça a été alors pas tous parce qu'il y a une reprise sur l'intérêt de la discipline et tout, mais enfin, quand même. quand même. Mais ils les ont abandonnés parce qu'il y a quand même un truc fondamental qui... Enfin, alors ça, c'est un peu personnel. C'est peut-être mon univers comme ça, un peu fait de briques et de brocs. Mais pour moi, les paysagistes sont beaucoup plus proches des architectes d'intérieur, en tout cas tels qu'on travaille ici sur la question de l'ambiance, parce que précisément, ils travaillent sur la question de l'ambiance, tandis que les architectes, depuis, je dirais, une quarantaine d'années, enfin, vous voyez là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de l'architecture, ils se sont focalisés sur des objets. Et la grande différence qui est entre un paysagiste, à mon avis, et un architecte, c'est qu'un paysagiste travaille sur des relations d'objets, de masse, d'échelle, etc. Mais il ne travaille pas fondamentalement sur les objets. Alors, il y a certains jardins... Après, il y a des familles hein, chez les paysagistes.
Le paysagiste, quand même, le jardinier, j'ai travaillé beaucoup avec Gilles Clément, parce que je fais plusieurs projets avec lui. Et la différence avec l'architecte, c'est que le jardinier, vous avez d'ailleurs dit jardinier, ils ont une culture du végétal. C'est une maîtrise que n'ont pas les architectes. Et savoir travailler sur un paysage, c'est savoir, alors on peut évidemment composer avec des éléments artificiels ou des éléments naturels, mais à partir du moment où on travaille avec des éléments naturels, il est obligé de connaître tous les effets du rapport
oui.
au temps.
Oui, oh, par rapport au temps, alors.
Moi, si j'ai un exemple qu'on appelle, c'était d'abord sa vie, il a fallu 10-15 ans avant
bien
qu'il prenne son apparence.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas, l'architecte, sa maison, son immeuble est construit dans
voilà.
un délai d'un an.
Voilà. Mais tu sais, c'est ce que. Il y a, d'abord, Clément est un élève de la SUS. Alors, c'est vrai que dans la famille des paysagistes, il y a quand même des dissensions. Et c'est vrai que quelqu'un comme Clément ou comme Cribier se positionne comme jardinier, donc dans la grande tradition du jardinier, quoi. Horticulteur, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'en parle pas trop. J'en parle pas trop parce que je ne suis pas encore très aguerri. Mais en fait. Historiquement, les paysagistes viennent des horticulteurs. Les figures tutélaires de l'économie et de la politique des paysagistes, c'est quand même majoritairement les horticulteurs. Moins depuis 30 ans, parce que les choses se sont redistribuées, etc. Mais enfin, quand même, initialement, c'est ça. Et le nôtre, c'était d'abord... Pourquoi il est devenu le nôtre ? Parce que ben, il savait, effectivement, planter les arbres, les greffer, les faire pousser, les faire grandir.
Ils travaillaient comme des architectes, effectivement.
Voilà.
Et même comme des peintres. Mmh. Parce que les jardins que l'on voit, qui sont conçus comme des peintures, avec des effets de perspective, des effets de matin, de proche et autres. Et après, ils sont intégrés d'une façon réelle, mais ils sont presque des concepts culturels.
Bien sûr.
C'est pas, on ne va pas être hostile à ça, puisque c'est aussi un signe. Et je pense qu'il y a beaucoup de paysagistes. Jardinier trouve une culture, mais quand je parle avec Clément, c'est telle espèce, tel truc, telle profondeur de racine, les effets que ça va faire, et pas combien de temps ça donnera, et ainsi de suite.
Hein. Tu sais, Bernard a une très belle phrase qui dit si tu plantes un arbre, t'es pas sûr d'avoir de l'ombre dans 50 ans. En revanche, si tu le plantes pas, t'es sûr que t'en auras pas. Et alors pour aller dans ton sens, c'est-à-dire que moi c'est un travail que j'avais abordé il y a 5-6 ans au Centre Pompidou, donc dans une vision patrimoniale, quand on travaillait sur les coloristes avec ma collègue Chloé Pithiot. Et puis progressivement, en fait il y a un peu une amitié qui s'est construite, j'ai fait une première expo, une deuxième, un livre, deux livres, trois livres, le jardin Beaubourg, le jardin... Donc c'est une rencontre. Après il y a un truc que moi j'ai su faire, et je ne sais pas si j'arriverai encore à le faire pour des raisons, raisons compliquées, c'est qu'effectivement, travailler sur quelqu'un de vivant, il faut être dans la distance. Et donc il faut, moi j'ai toujours réussi à le faire, mais j'avais l'autorité du Centre Pompidou, c'est de dire je vais vous déposséder, mais vous allez vous y retrouver. Quand on n'a pas d'autorité institutionnelle derrière soi, c'est plus difficile.
C'est plus la même situation.
Voilà. Alors après, avec la SUS, il y a un truc complètement contextuel de base, c'est qu'il a eu un gros accident cet été, donc du coup il est plus diminué. Mais cela dit, il y a quand même un truc qui est réel, c'est un enseignant par nature, et c'est un passeur par nature. Donc, s'il n'y avait pas eu cet accident qui, effectivement, l'a diminué, nous a tous ralenti d'une certaine manière, moi, j'ai accès aux archives.
C'est ça,
donc maintenant, ce qui est difficile d'accéder, c'est ce que j'ai donné, c'est ce que j'ai fait rentrer au Centre Pompidou. Donc en fait, j'ai travaillé sur la sauvegarde patrimoniale, et donc du coup, maintenant, ça me pénalise, parce que du coup, c'est vachement chiant, quoi. Tu vois, les trois trucs où il faut mettre des gants à la bibliothèque Korninski, je préférais que ça soit dans l'agence, quoi.
Et là, si je démontre qu'il est vraiment un enseignant, c'est sur le travail urbain sur les habitants paysagistes, parce qu'il fallait vraiment décrypter, il fallait avoir une intelligence d'analyse propre à un enseignant, qui est capable d'analyse comme un étudiant, de savoir qu'est-ce qui se pose, comment les définitions qu'il peut avoir. Et lui, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Quand on lit le ouvrage, on voit le nombre d'exemples différents qui ouvrent des perspectives. Le territoire de conception est extrêmement multiple et il fallait avoir le sens de savoir les décrypter, donc c'est en aisance à pouvoir les transmettre.
Donc là, c'est plutôt un travail aussi beaucoup sur le contexte, les liens.
Moi, pour moi, moi je pense que si tu veux, là c'est vrai que ça dérive sur le côté monographique et tout, mais. Pour moi, c'est vraiment la question de la réinstitutionnalisation d'une discipline. Et quand j'ai vu Jean-Marc Bess, si tu veux, donc Jean-Marc Bess, tu vois qui c'est, Claude ? Vous voyez qui c'est ? Hein ? Oui, oui. Et puis, la nécessité du paysage. C'est une collection qu'il a engagée chez Actes Sud, non pas Actes Sud, les autres, la parenthèse. C'est le directeur de la publication des carnets du paysage chez Actes Sud, prof à Versailles, à l'école de paysage, et puis directeur de recherche à l'EHESS. Mais quand je lui en ai parlé, et c'est marrant parce que c'est exactement. Lui, il n'est absolument pas de cette famille, parce qu'on a bien compris, c'est ce que disait Claude. Là, c'est la famille, c'est la lecture des paysagistes dans la tradition de l'artiste, du créateur. T'as une deuxième famille qui est un peu intermédiaire, c'est la tradition, je dis schématiquement, t'as la tradition des horticulteurs, donc voilà, et puis t'as la troisième famille, c'est les géographes. Et Bess, lui, il est du côté de la géographie. Donc toute la question. Donc il aborde le paysage et l'écologie et tout par le biais de la géographie. Tu vois. Mais cela dit, cette question de l'institutionnalisation, de la réémergence d'une discipline en tant que telle, et d'un corpus théorique qui va avec, hein, parce que bon, j'en ai pas trop parlé, parce qu'après c'est des listes de bibliographie, tout ça, mais si tu veux, que ça soit Berck, que ça soit Michel Conan, que ça soit Alain Roger, c'est quand même, aujourd'hui, quand tu vas acheter un bouquin sur l'histoire du paysage, ou l'histoire de la théorie en France du paysage, tu tombes très très vite sur Alain Roger, Michel Conan, et ces gens-là. Ce sont ces gens-là que la SUS a, comment dire, a contribué, à associer, dans son DEA en 90, tu vois. Mais après, t'as l'international, donc John Dixon Hunt, enfin bon, bref, plein de gens, quoi. Mais oui, c'est la question d'un milieu. C'est la question d'un milieu professionnel qui se reconstitue.
Un milieu, un métier, des pratiques.
Voilà.
Et moi, j'ai une question qui n'est pas très claire, parce que c'est pas encore clair dans mon esprit, forcément, mais... Est-ce que tu penses que tu vas justement attaquer la réinstitutionnalisation de la discipline avec ce que tu as dit sur la slide, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une discipline, en quoi on a besoin pour la construire, la justifier, la valider, la tamponner. Ou alors, à un moment, il y a une ouverture aussi vers une nouvelle approche académique de la non-discipline, avec, on en avait un peu parlé, je crois, sur les approches en studies, etc., sans avoir fait l'économie de la réflexion de ce que c'est qu'une discipline, je trouve, soulage un peu tout le monde sur ces frontières assez floues, mais que tout le monde veut complètement crispantes, entre l'architecture, l'architecture intérieure, le paysage, l'horticulture, la botanique, les bonsaïs, enfin, quoi, j'en sais rien, mais est-ce que ça peut être intéressant? Et aussi le Land Art, enfin, quand je vois ça, alors je ne connaissais pas du tout la SUS, mais il y a Christo qui a fait une œuvre comme ça. C'est en fuchsia, etc. Et est-ce que ça c'est trop fouillis d'aller dans cette direction, de demander si vraiment l'approche verticale est intéressante et encore valable même, ou justement de la faire plus horizontale, tu vois.
Moi, je dirais que c'est les deux, en fait. Parce que dans les pratiques, dans la pratique réelle, dans la pratique conceptuelle, si on est sur l'axe de la conception, quoi, Gestaltum, quoi, on est évidemment dans l'horizontal. Et s'il y a bien quelqu'un qui le démontre de façon assez forte parmi d'autres, c'est bien Lassus. En revanche, il y a quand même un moment, en tout cas historique, peut-être que ça n'a plus vraiment lieu voilà. Mais il y a quand même un moment historique, à mon avis, où tout d'un coup, si tu veux, il y a une discipline qui se remet droite par rapport à son histoire, à sa culture, à son, tu vois.
Oui, parce que je pense que c'est un recoupement. Il y a des choses différentes sur les formations, la question des savoir-faire. Question des compétences. Et puis en France, on a ce problème d'avoir une profession qui est hyper forte, réglementée, organisée, structurée, qui est omniprésente et qui, finalement, toutes les autres disciplines, parce qu'elles se sont organisées à un moment, elles ont dû mettre en place effectivement des schémas, des protocoles, des acquisitions, des transmissions de compétences, se sont formées contre ou à côté. Et c'est ça la question. Et donc, il y a effectivement le domaine du design de sens large qui finalement est une, absorbe dans cette espèce de transdisciplinarité et qui n'est pas absurde, effectivement, quand tu vois ça, le mec, il est peintre, il s'est intéressé à la couleur, il produit de l'espace, et il organise cet espace et avec effectivement les compétences de jardinier, de paysagiste. Donc on voit bien que le cloisonnement n'a pas de sens. Mais en fait, il en prend un. Parce qu'il y a un moment où, bah, tu vois, tu dis les horticulteurs à l'origine de...
Est-ce que c'est un fait du chien?
Pas que, je pense que c'est aussi la question de la transmission. C'est-à-dire que je pense que profondément, c'est une profession, la foi mise en avant. Elle passe par l'enseignement. C'est-à-dire que, alors c'est moi ce que j'essaie de découvrir et de repenser au niveau de l'archive intérieure en termes historiques. Il y a un métier et une pratique qui s'est identifié, qui s'est autonomisé. Alors, c'est pas les horticulteurs d'origine, c'est le tapissier. Et c'est un savoir-faire, on ne sait pas. Non, je suis toujours les étudiants, hein. Voilà, c'est mon ancêtre, c'est le tapissier. Et vous venez de là. Et en fait, vous venez de là, mais il y a un moment où c'est le tapissier qui devient concepteur, qui devient designer. Cette question de savoir qui fait quoi avec quelle palette et quelle boîte à outils, pour pouvoir la transmettre. Et je trouve qu'effectivement, la question de la relation des écoles du paysage est très importante. Et on voit bien que, sur le plan de la définition aussi, architecte paysagiste, c'est la maîtrise d'œuvre, quoi. C'est un vaste chantier, c'est des gens qui touchent dur.
On a fait un colloque que j'étais responsable avec Saint-Étienne, c'est pas on a fait l'université Saint-Étienne, mais c'est la ville qu'on a fait, qui était un territoire pour l'autre. Et c'est la déperdition d'un ouvrage qui a été fait. C'est la déperdition des territoires. C'est qu'on est dans une période où il y a la classification qu'on avait avant de passer extrêmement étanche des spécialités de conception et de travail et d'apprentissage. Maintenant, voilà, c'est à l'image de l'hypercommunication avec les outils qu'on a, où il y a un dialogue total. Bon, alors, c'est intéressant, c'est intéressant de se reposer la question. Quoi qu'il va être disponible à un moment par rapport à la question qu'on se pose, et aller voir, avoir la stratégie d'aller voir les informations qu'il faut avoir pour la construire. Alors, où il y a peut-être des obstacles, c'est institutionnellement, donc il y a des concours ou autre, est-ce qu'il n'y aura pas des obstacles là-dessus?
Et ça, le capteur, je pense que Charlotte pose une question qui nous taraude, quoi.
Parce que là, dans cette photo, je pense qu'un archi peut comprendre que c'est de l'architecture, un architecte intérieur peut comprendre que c'est de l'AI, un designer peut comprendre que c'est de l'AI, enfin tu vois,
un peintre,
en fait on peut être à ce moment-là tous en train de se tirer le bout de la couverture en refusant à l'autre la possibilité de le faire parce qu'on sait faire aussi, enfin, elle est superbe cette photo-là.
La société.
Donc, la protection rentre partout,
mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, en même temps, les donneurs d'ordre, enfin les commanditaires, les maîtres d'ouvrage, sont très largement saucissonnent les marchés de façon extraordinaire. Moi, je suis frappé de voir, mais c'est vrai pour la Suisse, mais c'est pas vrai que pour la Suisse, c'est vrai pour tous les poids lourds de gens qui touchent des grosses commandes, de très grosses commandes dans les années 60-70, mais le pouvoir qu'ils ont, qu'on leur donne, enfin, le pouvoir en termes de champ d'activité, si tu veux. À un moment, la Suisse, il a fait toute la coordination, par exemple, de Dijon, là, de Quetigny et Dijon, mais ça allait jusqu'à... Alors, ça allait pas sur le plan intérieur des bâtiments, etc., mais ça allait sur l'éclairage, ça allait sur les accès, les parkings, tu vois. Et donc, tu vois les contrats, c'est étonnant l'étendue de l'autorité qu'on leur confère.
Je connais une agence avec qui j'ai fait travailler avec nous, effectivement, l'agence en France, qui m'a montré les projets. Ah oui, il est déjà sur l'architecture, il est sur les problèmes d'éclairage, il est sur des problèmes de sécurité, de certaines natures de traitement. C'est pas pour des arbres, hein, des agissements.
Le traitement des eaux.
C'est pour ça que moi, il faut naviguer avec des systèmes, mais selon sa nature profonde. On va à un moment, ça c'est chacun, on va à un moment, on va aller vers, plus qu'au vers ça.
C'est qu'il y a un cœur de métier, je pense.
Il faut être disponible et à un moment, dans une nature profonde, on va à un moment choisir.
Avec un référentiel formation, etc. Et puis après, en fonction de...
Vous verrez dire, ah ouais, je suis plus dans la conception rationnelle, technologique et autres. Je suis plus dans moi, l'émotion, le ressenti et le... L'accident
provoqué, c'est assez... Oui, il y a un terme que tu as utilisé dans ton premier tableau que j'ai eu du mal à comprendre. Si tu pouvais juste me dire un peu plus ce que tu entends par mesure de bâtiments, justement, sur lesquels il est venu mettre de la couleur, de ces barres. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre mesure que tu montrais. Est-ce que c'était une mesure de l'ère industrielle, mais... Du coup, c'est quoi? C'est le contexte, l'environnement autour qui s'use? C'est les bâtiments qui s'usent?
C'est l'activité. Et moi, je l'utilisais là, en l'occurrence, parce qu'effectivement, les bâtiments étaient vieux.
Oui.
Étaient usés, enfin, dans le sens... Mais moi, je l'utilisais plutôt dans le sens de l'usure de la société industrielle. Mm-hmm. C'est-à-dire ce début du ralentissement, du fait que de la désindustrialisation, si tu veux. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, oui, j'étais plutôt sur une idée un peu abstraite, si tu veux. Ouais. Mais ce qui est frappant, c'est que les grandes icônes des années 50, dont on pense que c'est la modernité triomphante, en fait, quand tu regardes en intérieur dans les discours, les grands patrons savent que c'est le signal de la fin. Donc c'est le début de la fin, en fait. Les années 50, c'est pas que les glorieuses. Non, c'est le début de la fin. Enfin, aussi, tu vois. Et cette question du temps, enfin, tu vois, à mon avis, importante. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Michel Desvignes, c'était marrant, parce que Desvignes, il est à côté, tu vois, il est cash. Il me dit, nous, notre fonds de commerce, c'est... la réhabilitation des sites industriels. Il dit, mon fonds de commerce, c'est la fin de l'industrie, quoi. Enfin, donc effectivement, quand tu regardes les programmes qu'il fait, donc l'accès de tous les cavaliers au Louvre Lance, les cavaliers, c'est les... c'est les talus sur lesquels étaient posés les voies de chemin de fer d'accès et d'approvisionnement. Donc il y a un côté, si tu veux... je trouve que chez la Suisse plus que chez d'autres, mais il y a un côté... on encaisse le traumatisme qu'a produit l'industrie, parce que c'est quand même phénoménal, hein, quand on commence à regarder, même avec des yeux d'enfant. Enfin, moi, je viens du nord de la France, donc si tu veux... Voilà. Donc, il y a un côté d'encaisser ce violent traumatisme, en même temps, d'accompagner son déclin, quoi. Alors, c'est pas vrai partout, parce que les autoroutes, on peut pas dire que c'est des déclins. Mais c'est un traumatisme colossal, l'autoroute. Hein, dans le paysage, donc si tu, toutes les... Et après, je te raconte pas les questions politiques, parce qu'en fait, ils gèrent la négociation avec les communes. Si tu veux, sur 20 bornes d'autoroute, tu peux traverser 50 communes, quoi. Donc,
Moi, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, vous êtes des générations, car ce que tu disais, moi, j'ai vécu les Trente Glorieuses, qui était une mutation fondamentale, où toute la culture qui allait jusqu'à l'après-guerre était remise en question, c'est-à-dire la transmission autoritaire de la famille et l'autre. Donc, les Trente Glorieuses, ça passe à un rythme, un confort financier qui apparaît, le pouvoir d'achat, la société de consommation apparaît. Et donc, on va se remettre complètement en question. Donc, je parlais encore hier à la conférence, je donnais comme image le Sacco. Le Sacco, qui est un chef-d'œuvre, et qui exprime tout. Il exprime la remise en question des codes, des repérages, la technologie, la façon de s'asseoir, et de regarder le monde, et d'être allongé à la plage chez soi. Donc, vous voyez, le bouleversement social, la bonne route, comme j'aime bien dire. Et de ce fait, comparativement à ce que je ressens dans la société dans laquelle on est, ça, c'est puissance par rapport à 32 lieux, puissance 100, peut-être 1000. Il faut qu'on est dans un bouleversement fulgurant par l'hypercommunication, par les nouvelles technologies, par la mutation de la façon de travailler. C'est fulgurant. Hein. Je ne sais pas comment, moi, dans 10-15 ans, comment vous serez à travailler. C'est impressionnant. La planète va se fermer. La planète, c'est un petit jardin. C'est un jardin planétaire,
comme dirait l'autre.
C'est une grande interrogation. Et là, je crois que c'est à vous de réfléchir, là, à la génération, sur comment vous allez aborder, être vigilant, comment aborder ce monde, ce que j'appelle l'hypercommunication. D'ailleurs, l'expression politique actuelle des Gilets jaunes, la dépendance des autorités publiques, elle est à l'image de ça.
Bon, on peut toujours t'envoyer des étudiants en mémoire quand
on... Oui, c'est juste.
Je reste disponible. Si vous avez la reconnaissance de pouvoir faire une quelque analyse de quelque chose, ce serait pour plaisir.
Merci beaucoup, Julien.
Mais de rien, c'était un plaisir.
Il y a une fontaine empruntée par les jardiniers.
Ah bon?